puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radioscope 107.
Bonjour, la puce à l'oreille, aujourd'hui pour retourner à nouveau du côté des journées de formation organisées par l'Association nationale des professionnels et acteurs du sanitaire, social et médico-social pour l'enfance et la famille, organisée à Roubaix sur le thème des violences conjugales et intitulée « De la violence conjugale à la violence intrafamiliale ». Deux jours pour poser le problème des enfants victimes de ces violences. Aujourd'hui, nous retrouvons les témoignages de Marine Herriot et Anna Matteoli, deux juristes, chercheurs en droit privé fondamental à la faculté de Strasbourg et représentantes du CDFF. Centre d'information des droits des femmes et de la famille du Bas-Rhin. Nous retrouvons également Rosa Mascaro, elle est pédopsychiatre, directrice d'un centre d'action médico-social pour l'évaluation des interactions précoces entre le bébé et ses partenaires. Et nous irons également retrouver Anne Jacob, directrice de l'ASBL Praxis, une association belge pour aider les auteurs de violences conjugales et intrafamiliales. Mais avant tout ça, je vous propose de retrouver, si vous n'étiez pas avec nous hier pour la première partie de cette émission, Éloi Lemaire. Éloi Lemaire est éducateur de formation, il a fait carrière dans la protection de l'enfance. Il est l'un des organisateurs de ces deux journées de formation. Il nous replace le cadre de ces journées du 4 et 5 octobre à Roubaix.
Ça fait maintenant 2 ans qu'on est en préparation avec des réunions de commission entre nous pour à la fois clarifier le sujet et puis faire le choix des intervenants. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ces 2 ans de travail de commission en collectif, quoi, de professionnels. Alors, de collectifs de professionnels qui viennent de différents établissements, publics et privés, et qui occupent différentes fonctions des établissements.
Donc, c'est-à-dire, vous souhaitez éclairer l'approche des professionnels sur cette question des violences conjugales ?
Alors, on est tous professionnels confrontés à un moment donné à des situations de violence conjugale. Là, l'idée, c'était qu'on s'arrête, on se pose et on essaie de voir ce qui s'y passe et on essaie d'y comprendre quelque chose, particulièrement du point de vue des enfants. Et donc, c'est ça qui a conduit à cette démarche d'aujourd'hui.
Pourquoi les enfants, justement ?
Pourquoi les enfants ? C'est parce qu'on est tous du champ, principalement du champ de la protection de l'enfance. Donc, c'est à la limite, c'est notre mission première dans le cadre de notre profession, quoi. Alors, il y a parmi nous des professionnels aussi qui s'occupent des adultes, mais principalement, on est les professionnels qui s'occupent d'enfants. D'où ce choix de s'intéresser aux enfants. D'autre part, lorsqu'on évoque les violences conjugales, le plus souvent, on évoque les auteurs, les victimes, et très peu souvent, on évoque les enfants.
Quel statut ils ont, ces enfants ? Ils sont victimes collatérales, victimes à part entière ?
Alors, moi, je pense que c'est des victimes à part entière, ce qu'on mesure peut-être pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il y a le côté, ce que disait l'intervenant ce matin, il y a le côté événementiel, il y a ce qu'on voit, ce qui attire l'attention, ce qui va, en particulier lorsqu'il s'agit de violences physiques, de drames familiaux. Et on oublie ce que vivent les enfants, qui, eux, généralement, n'occupent pas le devant de la scène à ce moment-là.
Et le travail de l'éducateur, de l'accompagnant, c'est quoi à ce moment-là à travers les enfants ? C'est de le mettre d'abord dans un milieu sécur s'il y a un danger immédiat et de lui proposer d'avancer malgré tout, de faire le travail nécessaire pour se bâtir, se reconstruire ?
Alors, pour moi, le travail premier, c'est... je pense qu'avec les parents, même des parents qui suivent des situations de maltraitance et de violence conjugale, Il est possible de parler de la sécurité de leur enfant. C'est peut-être ce sur quoi, un point sur lequel ils peuvent être d'accord, c'est-à-dire mettre en sécurité l'enfant ou penser à la sécurité de leur enfant. Et pouvoir après prendre ou non des mesures de protection d'enfant qui ne sont pas forcément du placement. Ça peut être faire appel à un membre de la famille pour qu'il s'occupe de cet enfant pendant que le couple se règle ses difficultés ou tente de les régler, quoi. Ah.
On a du mal parfois à comprendre que le lien soit absolument maintenu avec les deux parents quand l'un des deux parents s'est montré déficient ou violence. Pourquoi cette volonté de ne pas couper absolument le lien entre enfant et parent ?
Alors, d'une part, parce que c'est dans la loi. La loi a beaucoup évolué ces dernières années et renforcé la place des parents, renforcé l'autorité parentale. Donc, ça nous amène de fait à devoir travailler avec ses parents, devoir à la limite tout faire pour que l'enfant puisse être maintenu dans des liens avec les parents. Maintenant, j'ai une position un peu critique, c'est-à-dire que ça ne peut pas être à tout prix, à n'importe quel prix. À se focaliser, à se décaler des situations parentales pour se préoccuper des enfants.
C'est compliqué que d'obtenir de la justice finalement que malgré la loi, le lien ne soit pas absolument maintenu.
Alors, il n'y a pas lieu d'avoir des ruptures de lien. Dans le passé, il y avait une politique qui était une rupture de lien. Le lien, il existe un lien d'attachement, ça existe. Vous pouvez être séparé par des kilomètres et par le temps. Ce lien d'attachement va persister malgré la distance, malgré le temps. Donc ce lien existe. Donc il ne s'agit pas de couper des liens. Il s'agit de mettre des enfants à l'abri. Au jour d'aujourd'hui, les juges des enfants se situent dans le cadre de la loi, de l'application de la loi, qui est d'abord d'essayer toutes les mesures de collaboration avec la famille avant d'avoir des mesures qui sont plus autoritaires, de placement.
On a eu des intervenants ce matin à la tribune qui nous ont dit « Nous, éducateurs, on ne doit pas être dans le jugement. On arrive, ça, à prendre la distance nécessaire ?»
Alors, moi, je pense que ça fait partie du côté professionnel, que ça se travaille. Maintenant, on est tous pris dans nos émotions. Une façon d'être moins, c'est peut-être de travailler en équipe. L'équipe peut réguler quand on est trop englué dans une situation. Il y en a aussi de l'analyse pratique qui permet sans doute de prendre un peu de distance. Mais les émotions, on les a. Si je refuse d'accepter mes émotions, quand je vais rencontrer tel parent, tel monsieur, telle dame, ça va m'encombrer, ça va se traduire dans mes propos, dans mes attitudes corporelles. Donc il y a accepter ce qu'on ressent et faut pas le nier. Après, c'est professionnellement, situation, voilà ce que je suis censé faire à ce moment-là. C'est là que ça se joue.
Quel regard vous portez, vous, maintenant vous n'exercez plus, mais aux moyens qui sont donnés à vos collègues dans les états de structure, obligés de se restructurer, de signer avec les financeurs des contrats d'objectifs et de moyens parfois compliqués qui font qu'on baisse le nombre d'effectifs, on rabote également les moyens. Aujourd'hui, on a notamment les moyens nécessaires pour avoir une aide efficace à la personne.
Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect positif des choses, c'est que le fait de signifier aux établissements et aux services qu'ils auraient moins de moyens, ça les a obligés à se transformer. À être innovant, à se transformer, à pu faire comme on a toujours fait, etc. Ça, c'est l'aspect positif des choses. L'aspect négatif des choses, c'est que les mesures qui sont mises en place pour des raisons économiques. La mesure qui visait à s'arrêter les contrats PGM à 18 ans dans le département du Nord, ça a conduit plein de jeunes à se retrouver à la rue du jour au lendemain.
Allocation pour jeunes majeurs à PGM.
Oui, c'est ça. Le fait de prôner à tout prix le placement à domicile, c'est un mode d'accompagnement très pertinent, sauf qu'il n'est pas pour tout le monde. Or, c'est devenu la règle pour des raisons économiques. Ça coûte 4 fois moins cher qu'un placement. Qu'on le mette en place, oui, mais qu'on le mette en place pour des raisons strictement économiques, on va en payer le prix, enfin les enfants vont en payer le prix dans quelques années, parce que le maintien à tout prix dans les familles fera qu'on aura des gamins extrêmement abîmés dans les années qui viennent.
ça va être un enjeu de société, un enjeu de choix politique, clairement expliqué.
Oui, parce que de toute façon, on peut dire c'est de l'économique, c'est de la politique, c'est de l'idéologie. L'idéologie que si on met plein de moyens en accompagnant les enfants à domicile pendant 6 mois ou 1 an, ça va régler tous les problèmes, c'est de l'idéologie. Ça marche dans certaines situations. Dans d'autres, on recule au moment où il va bien falloir trancher et placer les enfants.
Éloi Lemaire, éducateur de formation, qui nous présentait donc le cadre de ces 2 journées de formation sur le thème des violences conjugales aux violences intrafamiliales. Je vous propose à présent de retrouver Marie Nériot et Anna Matteoli. Toutes les deux sont juristes, chercheurs en droit privé fondamental à la faculté de Strasbourg, représentants du CDFF, le Centre d'information de droit des femmes et de la famille du Bas-Rhin, et elles ont mené une étude sur cette question des violences conjugales.
J'ai participé à l'étude sur les dispositifs de lutte contre les violences conjugales, plutôt sur l'aspect civil, donc les ordonnances de protection qui sont mises en œuvre par le juge d'affaires familiales.
Parce que c'est particulier, il y a le volet civil, il y a également le volet pénal.
Oui, tout à fait. Et dans notre étude, on met en avant les différentes conclusions sur l'aspect pénal, etc. C'est publié en 2016, ça avait été financé par la mission Droit et Justice, JIP.
Qu'est-ce qui a motivé cette étude ?
Écoutez, c'était un appel à projet. L'Université de Strasbourg, on avait trouvé un responsable scientifique, le professeur Granet, qui acceptait de nous suivre. Et nous, on avait répondu à l'appel à projet en disant qu'on voulait faire une étude départementale parce qu'on était déjà... Ben moi, ma thèse portait sur les violences dans le couple et du coup, on voulait aller plus loin avec des recherches plus poussées.
Alors, vous le disiez dans votre intervention, c'est pas un phénomène nouveau. Alors, certes, on en parle davantage et c'est une bonne chose, mais ça a toujours, hélas, existé.
Oui, ça a toujours existé. Il y a des ouvrages, il y a des historiens du droit qui démontrent comment on punissait à l'époque ces dissensions domestiques, c'est comme ça que ça s'appelait. Il y a toujours eu des magistrats mobilisés, il y a toujours eu des associations, etc., qui s'en occupaient. La différence peut-être aujourd'hui, c'est que c'est devenu, on est passé d'un problème vraiment privé à des politiques publiques qui le prennent en charge, et donc du coup on a des nouveaux mécanismes quand même, puis plus fréquents.
Et puis, vous avez quand même évoqué... Je ne vais pas parler de dysfonctionnement, mais des choses qu'on a du mal à comprendre, aussi bien sur le volet pénal de l'instruction, sur les décisions, également du côté civil. Voilà. Éloigner un conjoint violent d'un foyer, c'est pas aussi simple que ça.
Effectivement, l'éloignement du foyer pour le conjoint violent, c'est une mesure qui existe au civil et au pénal, mais ça nécessite aussi de pouvoir aussi, prendre cette décision en prenant en compte aussi les enfants, si jamais il y a des enfants dans ce couple, et réfléchir à l'intérêt de garder des liens entre le père et les enfants sans qu'il y ait de danger pour ces enfants et pour la femme qui a été victime de violence. Et ça passe par une connaissance des dispositifs sociaux, par exemple comme des espaces rencontres, et il serait intéressant que les juges puissent dans leur disposition, dans leur jugement, effectivement mettre en place une interdiction d'entrer en contact, mais réfléchir à ce que le droit de visite et d'hébergement, enfin le droit de visite plutôt, se fasse dans ces espaces de rencontre ou qu'il y ait le passage de bras dans les espaces de rencontre. Et ça, c'est vraiment important d'y réfléchir, parce que sinon, on peut imaginer que même s'il y a une interdiction d'entrer en contact, sauf pour le passage de bras avec les enfants, à ce moment-là, au moment du passage de bras, il puisse y avoir des actes de violence.
On entend également le témoignage ici des travailleurs sociaux qui nous disent que c'est compliqué que d'aller chercher le témoignage, la parole, pour pouvoir amener une action en justice. On a l'impression que le traitement de la victime par la justice, il n'est pas souvent humain, on lui en demande beaucoup à cette victime.
On est sur des infractions très qui engagent énormément le professionnel. C'est un contentieux très problématique parce qu'on n'aime pas en tant que professionnel aller se confronter à la réalité des foyers, je crois. Et du coup, c'est extrêmement difficile. Souvent, faute de temps et faute de budget, hein, quand même, je le rappelle, les magistrats, des fois, c'est pas faute de vouloir s'occuper, je pense, d'une victime et de prendre du temps avec elle. Pareil pour les forces de l'ordre. Mais souvent, ils n'en ont pas le temps. Ils sont débordés. bien souvent, en fait, ils connaissent les dispositifs qu'on a décrits là, au pénal et au civil, les magistrats. C'est plutôt que le temps va leur manquer pour justement prendre attache avec le réseau associatif autour de cela, mettre en contact la victime. Et effectivement, comme je l'ai dit dans mon intervention, je crois que les gens aussi attendent de la justice un traitement effectivement qui va réparer quelque chose, là où en fait on est dans l'application du droit. C'est une grande distinction.
Vous avez également évoqué le besoin aujourd'hui de consacrer également du budget, une fois que l'affaire est jugée, que les décisions sont prises, à l'avenir de la personne violente. Vous dites, on ne peut pas laisser comme ça parce qu'il y a un risque de récidive sur un autre conjoint, ou même si les personnes, parce que parfois ces personnes restent en couple. Voilà, qu'est-ce qui devient après? Ça, il faut mettre également, se questionner sur l'accompagnement de la personne violente.
Ben, je crois qu'à toutes les étapes de la procédure, hein, pas seulement quand l'auteur violent a été jugé et qu'il est condamné, même au moment où il y a un classement sous condition, qu'il a suivi une obligation de soins très temporaire, etc. Effectivement, la prise en charge des auteurs, moi, ça me semble indispensable, mais c'est pas pourtant ce qu'on retrouve dans les politiques actuelles gouvernementales. Il n'y a pas de prise en charge en ce sens. Il n'y a pas d'hébergement. Il y a de rares initiatives. Hein. Il y en a une d'ailleurs près de Lille, hein, où grâce à un foyer Emmaüs, on peut l'éviction du conjoint violent se met en place. Il part du logement, on va le garder. Voilà. Mais il faudrait que ça se généralise. Et je crois vraiment que ce serait dans l'intérêt des victimes qui sont encore en couple avec cet auteur, ou des futurs partenaires de cet auteur. C'est ça qu'il ne faut pas oublier.
C'est également un questionnement du côté du CDFF qu'on voit plutôt comme un mouvement féministe. Et on se dit, voilà, la place des hommes, parce qu'il s'agit généralement d'hommes violents.
Au niveau du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, c'est vrai que notre objectif, c'est de travailler à l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutter contre les violences au sein du couple. Et c'est vrai que lutter contre les violences au sein du couple, c'est prendre en compte toutes les particularités de cette affaire. Donc c'est effectivement protéger la victime, protéger les enfants, et puis aussi éviter la récidive. Et éviter la récidive, c'est réfléchir en tout cas au travail qui peut être fait avec les auteurs de violences. Et le CIDF travaille en partenariat avec des associations qui réfléchissent à ces questions, travaille avec des chercheurs comme Marie Nériot pour réfléchir à ce qu'on peut mettre en place pour les auteurs. C'est vrai que par contre, dans un même lieu, en tout cas dans le Bas-Rhin, on a fait le choix de pas mettre en place de dispositifs spécifiques pour les auteurs, pour éviter peut-être les rencontres et d'avoir un lieu sécurisé pour les femmes. Mais ça ne veut pas dire que tous les CIDF ont cette même position. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les CIDF savent que la question des violences n'est pas juste une question liée à la protection des victimes. C'est beaucoup plus global, et c'est même une question sociopolitique. La question sociopolitique, c'est effectivement réfléchir à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Quand on en fait la cause d'un quinquennat, un secrétariat d'État, ça suffit à la place d'un ministère ?
Disons que ce qui est important, c'est que cette question d'égalité, cette question de lutte contre les violences doit être une question qui doit rester présente dans la société. Alors il y a différents moyens pour qu'elle reste présente. C'est effectivement des campagnes médiatiques. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important pour que les victimes puissent aussi s'identifier comme victimes, pour que les auteurs puissent savoir qu'il y a des lieux où ils peuvent aller. Après, ce qui est important, c'est que au-delà de l'identification d'être victime, il faut pouvoir aussi pérenniser les structures qui accueillent ces victimes, qui accompagnent ces auteurs. Et forcément, là, on va parler de la question budgétaire, puisque pour accompagner les victimes, les auteurs, il faut des personnes qui soient formées, qui soient sensibilisées, et pour les accueillir.
Marine Hériot et Anna Matteoli, juristes, chercheurs en droit privé fondamental à la faculté de Strasbourg et auteurs donc de cette étude sur les violences conjugales. De la violence conjugale aux violences intrafamiliales, on en discute dans un instant dans la suite de la puce à l'oreille à l'occasion de ces deux journées de formation organisées par l'ANPAS, l'Association nationale des professionnels acteurs du sanitaire, social et médico-social pour l'enfance et la famille. On écoute Miossec et on se retrouve juste après.
Radio Scarpe Sensé, la puce à l'oreille.
En silence, comme pour encore mieux m'égarer, pour ne pas te donner la chance, pour ne pas me laisser te confier ce qui s'agite dans ma pensée, ce qui palpite dans mes pensées. De toute façon, façon, ça n'a pas de sens. De toute façon, c'est embrouillé. Puis ça sent un peu trop l'essence. Et puis ça sent le chien mouillé. Alors n'y vois pas d'inconvénient. Si c'est nuit sur la pointe des pieds, en silence, sans rien avoir à rajouter. Je descends l'escalier comme on danse. Le pantalon perdu sous les souliers, en laissant mon slip éminence perdu sous le sommier. Je quitte enfin la résidence pour ne pas te faire espérer une explication de mes absences. Les yeux perdus sur le plancher quand tu disais demain c'est dimanche. Je disais ah bon c'est férié. En silence, sans une excuse mal formulée, sans même un billet d'absence. Doucement la porte est refermée en silence, sans une excuse mal formulée, sans même un billet d'absence. Doucement la porte est refermée. En silence, sans même tenter de t'expliquer par quelle inadvertance. J'ai tenté hier soir de me raconter ce qui te semblait des invraisemblances. L'été en somme en vérité, je suis bourré de condescendance. Pour mes faiblesses il dure à avaler, ce qui fait que je flanche quand on essaye de m'apprécier. Ce qui fait que je flanche quand on essaye de m'apprécier. En silence, sans une excuse mal formulée, sans même un billet d'absence. Doucement la porte est refermée. En silence, sans une excuse mal formulée, sans même un billet d'absence. Doucement la porte est refermée.
Radio Scarpe Sensé, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Et aujourd'hui, les violences conjugales, de la violence conjugale aux violences intrafamiliales, c'était donc le thème de ces deux journées de formation, les 4 et 5 octobre, organisées par l'ANPAS, l'Association nationale des professionnels et acteurs du sanitaire, social et médico-social pour l'enfance et la famille. Nous allons retrouver Rosa Mascaro, elle est pédopsychiatre, directrice d'un centre d'action médico-sociale pour l'évaluation des interactions précoces entre le bébé et ses partenaires, un thème sur lequel elle a déjà mené deux études.
Alors, il y en a eu deux. Une première recherche qui visait à observer si l'accueil en pouponnière, lorsqu'elle était suffisamment bien organisée et adaptée aux besoins de l'enfant, permettait à l'enfant de récupérer ses capacités interactives qu'il avait perdues dans la relation qu'il avait nouée avec ses parents. Et donc la réponse était oui. La réponse était que dès qu'on repère et qu'on apporte à l'enfant la réponse à ses besoins fondamentaux très vite, il s'épanouit. Mais qu'il le fait d'autant plus qu'il n'est pas très abîmé. Lorsqu'il était très abîmé, qu'il avait déjà mis en place des stratégies défensives qui faisaient partie de sa personnalité, c'était beaucoup plus difficile de l'aider, de le soigner. La deuxième recherche, c'était de comparer une population d'enfants qui avaient vécu des négligences et d'enfants accueillis en crèche, qui n'avaient pas subi des négligences, et de manière à retrouver quels seraient les signes de souffrance qui seraient significatifs de négligence chez la population négligée. Et donc on a fait toute une recherche avec une étude statistique et ça nous a permis de retirer des signes qui étaient significatifs. Notre idée, c'est de développer une échelle qui nous permet de repérer très vite les signes de négligence chez l'enfant et chez les parents, des comportements qui pourraient être constitutifs de négligence pour essayer de mettre en place très vite un accompagnement qui soit éducatif ou thérapeutique.
Très vite, l'enfant fait preuve d'une adaptabilité. Ça, c'est incroyable.
Ah oui, l'enfant est vraiment malléable. Il s'adapte. C'est vraiment, il s'adapte. Et il s'adapte pour sa survie, hein, comme les animaux. C'est-à-dire pour sa survie, il va essayer dans l'environnement de trouver la manière la plus simple d'être protégé, d'être bien mené, d'être bien materné. Alors parfois, il n'y arrive pas, mais il trouve toutes les stratégies possibles.
C'est-à-dire que parfois, ça va jusqu'au fait de ne plus se manifester, se faire le plus transparent possible.
Oui, parfois c'est ça. C'est-à-dire que si il a un parent qui est extrêmement fragile, intrusif, exigeant et qui ne supporte pas les pleurs de son bébé, parce qu'un bébé est exigeant, a beaucoup de besoins, et donc il pleure pour demander de l'aide. Si le parent ne le supporte pas et que lorsque lui, il exprime un besoin, il obtient l'inverse de ce qu'il veut, c'est-à-dire un parent qui le secoue, qui s'énerve et tout, et ben il va finir par ne rien dire. Ce qu'il veut, c'est au moins garder la proximité du parent. Hein, parce qu'en termes d'attachement, ça le sécurise au moins, de garder...
On se pose toujours des questions sans être malfaisant ou voilà, on souhaite être bienfaisant pour ses enfants, mais il est nécessaire de répondre à chacune de ces sollicitations. Il faut également une question de mesure à mettre en œuvre. On apprend ça. Comment ça s'apprend?
C'est le processus de parentalité se met en place de la naissance d'un enfant, c'est-à-dire que le parent très vite développe un sentiment de responsabilité, de protection face à l'immaturité de son bébé. Et donc, il trouve très facilement les réponses. Ce n'est pas répondre tout le temps, hein, c'est répondre suffisamment dans la journée, et il le sent tout de suite. Si un bébé a faim, il se met à hurler trop longtemps, bah, très vite, le parent, bah, il ne le laisse pas hurler. Quand il est tout petit, parce qu'il ne peut pas attendre longtemps, quand il aura 6 mois, il va le faire attendre, parce qu'il l'aura appris à attendre.
Et ça se développe tout seul. Il ne faut pas avoir peur d'être mauvais parent, au final.
Non, normalement, dans les situations normales, simple, ça se développe très facilement.
L'enfant qui évolue, qui grandit dans un contexte violent, puisqu'il est question de violence au sein du foyer aujourd'hui, il porte les stigmates de cette violence dans son développement?
Oui, bien sûr. Rien que parce qu'on l'a entendu ces deux jours, hein, sa place, elle est compromise d'acteur, hein, sa place d'individu à part entière, ayant des initiatives propres, étant capable de provoquer des choses dans l'environnement, bah, elle est compromise. Il finit par penser qu'il n'obtiendra jamais rien de ce qu'il veut.
Et qu'il n'ait pas le statut à part entière de victime et qu'il soit considéré d'une autre façon, et notamment on l'évoquait là tout à l'heure, par le maintien du lien absolument avec le parent violent, ça vous questionne?
Ah oui, ça me questionne complètement. Je pense qu'il ne devrait pas. Il devrait avoir le statut de victime, puisqu'il l'a. De toute façon, dans les violences conjugales, c'est Édouard Durand qui a beaucoup développé ça. Il disait que dans les situations de terrorisme dans les pays, on observait que les enfants étaient beaucoup moins traumatisés que dans les situations de violence conjugale. Parce que dans les autres situations, la mère garde cette possibilité de protéger son enfant, de traduire tout ce qui se passe. Tu sais, c'est la guerre, il se passe ci, il se passe ça. Et ça l'apaise. Dans la situation de violence conjugale, il est seul. Personne, il voit la personne qui est sécurisante pour être complètement maltraitée et il n'a pas de personne qui puisse le rassurer.
Ce qui veut dire également que nombre de femmes disent « je pars pas parce qu'il y avait les enfants, ils étaient petits oui. ». Ça aussi, c'est faut le comprendre.
Oui, bah oui, il faut le comprendre. Oui. Mais sauf que ça n'est pas une bonne équation. Parce que les enfants sont en danger. Après, c'est très complexe, parce que parfois, comme on l'a entendu, les hommes s'en prennent à elles en disant « si tu pars, je vais tuer les enfants », etc., etc. Et donc, elles ont peur.
Aujourd'hui, quelle suite vous allez donner à vos deux enquêtes? Il y a des prolongements qui sont attendus?
Oui, on est en train de publier les résultats et l'idée, c'est de faire des formations pour que le maximum de professionnels puissent les utiliser. Et notre objectif, c'est que les enfants soient repérés très tôt.
Vous avez des moyens de suivre ces enfants sur le long terme, dans leur évolution, parce qu'il y a le passage en pouponnière, mais après, voilà, l'enfant oui. grandit. Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de suivre le développement de ces enfants, même s'ils reviennent dans une situation normale, pour voir si, effectivement, on est passé au-delà du traumatisme vécu?
On ne les a pas toujours, certains oui. Hein, par exemple, le film Bébé en souffrance, je continue à avoir des nouvelles. D'abord, ils sont suivis souvent dans notre CAMS, donc on les a déjà jusqu'à les 6-8 ans. Et après, on arrive à les voir. Après, tous les autres enfants, je ne sais pas. Mais parfois, on les retrouve malheureusement. Moi, par exemple, au fil d'Ariane, j'ai retrouvé une maman que j'ai soignée bébé et qui a exactement le même comportement que sa propre mère avait avec elle.
Quand des affaires éclatent, généralement, on a le témoignage de proches qui disent on ne pouvait pas se douter ou alors bon, on sentait bien. Il y a des indicateurs qui doivent être des signaux alertants.
Signaux alertants, bah, voir si un enfant s'exprime, hein, s'il a la parole, s'il proteste quand il a mal, s'il les proteste quand il est face à une situation qui est injuste ou pas. Ça, c'est déjà quelque chose d'important, comme pour les femmes violentées. Quand j'entendais hier, je me disais finalement, le cycle de violence entre l'homme et la femme, bah, ça fait penser aux parents et aux bébés quand les situations sont très violentes. C'est la même chose. Est-ce que l'enfant a sa place? Est-ce qu'il peut s'exprimer sans peur? Déjà, ça, c'est un signe.
Et enfin, dernière question, sur la duplication des modèles. Voilà, quand on grandit dans un milieu violent, on va continuer à vivre toujours avec ce mode de fonctionnement de non-communication, parce qu'on peut parler de communication violente, voilà. C'est une aberration.
Je pense que ce n'est pas forcé. Je pense qu'il y a les questions de résilience, chaque enfant est différent par rapport à ça, et puis il y a les parcours de vie. Qui cet enfant va rencontrer dans sa vie, dans son parcours, qui va pouvoir l'aider à fonctionner d'une autre manière?
D'où l'importance du travail de tous ceux qui sont réunis aujourd'hui.
Bah oui, et d'où le repérage et le travail précoce.
Rosa Mascaro, pédopsychiatre et donc directrice du Centre d'action médico-sociale pour l'évaluation des interactions précoces entre bébés et ses partenaires. De la violence conjugale aux violences intrafamiliales, il en était donc question dans ces deux journées de formation organisées par l'EMPAZ, avec également le témoignage d'une structure belge, une ASBL, l'équivalent pour nous des associations. Cette ASBL s'appelle Praxis, elle est dirigée par Anne Jacob, et cette association belge vient en aide aux auteurs de violences conjugales et intrafamiliales. Anne Jacob.
Ben, l'idée, c'est de responsabiliser et donc de permettre à ces hommes de prendre conscience de l'impact sur les victimes, sur les enfants, sur eux-mêmes, de l'exercice des violences, de leur permettre de faire une espèce de balance entre les avantages et les inconvénients d'exercer de la violence, et en même temps, dans cette évaluation, de permettre que la balance, à un moment, bascule de l'autre côté. Et donc de choisir finalement d'autres solutions par rapport aux situations extrêmes dans lesquelles ils estiment se trouver dans leur couple et dans leur famille.
Ces auteurs de violences, ils sont quoi? En manque de conscience de la gravité des faits ou dans une sorte de déni?
Je pense que les deux peuvent se retrouver. Je pense que ce sont d'abord des hommes qui ont du mal avec leur monde émotionnel, parce qu'on élève les hommes comme ça. Et que donc quelque part il y a une manière sociale aussi de fabriquer un homme qui conduit à la difficulté avec les émotions, le monde intérieur et peut-être aussi la frustration, hein. Donc vivre en couple, ça exige quand même beaucoup de compromis. Ce sont des hommes parfois un peu mal finis, un peu mal bâtis ou débâtis par des expériences antérieures. Et donc quand on fait des choses comme ça, est-ce qu'on les refoule, on les dénie, ou bien on ne pense pas aux conséquences? Parce que finalement, c'est quelle aberration que d'exercer de la violence au sein des relations qui sont les plus chères à leurs yeux, leur couple et leurs enfants, et donc dans le cadre d'une relation affective. Et donc quand on commence à penser qu'on a fait ça, c'est tout simplement insupportable, et donc on refoule ou on dénie les conséquences.
Le travail se fait en groupe avec des personnes qui sont obligées à venir à ces séances, et puis des volontaires également.
Oui, donc nous avons 2/3 de nos participants qui sont envoyés sur injonction judiciaire. Ils sont obligés de venir dans ces groupes retourner le problème et exposer le problème devant d'autres. Et d'ailleurs, ils considèrent que c'est leur punition, parce que faire ça en groupe, c'est beaucoup plus inconfortable que de le faire devant un psy qui va dire « Ah ben oui, monsieur, vous n'avez pas eu une belle enfance, etc. » Enfin, je ne veux pas dénigrer du tout le travail des psychologues individuels, mais qui sont formés à l'empathie et pas forcément à la responsabilisation et à la confrontation nécessaire dans ce type de problème. Et puis on a aussi des volontaires, ça peut paraître étonnant, mais Praxis est connu sur les réseaux sociaux, est connu dans la presse, dans les médias. Et donc des gens s'adressent spontanément à nous pour dire « j'ai un problème de violence dans ma famille, je voudrais le résoudre, sinon mon couple va partir en morceaux, je vais perdre mes enfants ». Et puis d'autres hommes aussi, au bout de l'obligation judiciaire, décident de rester parce qu'ils ont senti que ça leur faisait du bien. Et donc nos groupes sont mélangés avec des volontaires et des judiciarisés et ça fonctionne vraiment très bien comme ça.
Et puis vous questionnez donc sur la violence au sein du foyer, mais également dans toutes les composantes du foyer. Vous n'excluez pas la question de la parentalité, du rôle de père quand il s'agit d'un papa.
Mais non, pas du tout, parce qu'en fait, on ne peut pas distinguer la conjugalité de la parentalité, ce que les hommes font peut-être, mais nous, on ne peut pas en tant qu'intervenants. Ces hommes violents ou ces hommes qui ont des comportements violents ont eu souvent des enfances blessées, des enfances dans lesquelles ils ont observé eux-mêmes des choses très difficiles en termes de rapports humains entre leur père et leur mère ou des traumatismes d'autres natures. Et donc tout ça évidemment est retravaillé dans le groupe pour leur faire faire le lien. Nous avons d'ailleurs un outil dans le groupe qui s'appelle le continuum, qui vient du latin, pour montrer les continuités entre ce qu'on a vécu et ce qu'on reproduit et pour essayer de stopper cette reproduction. Et donc c'est un moment fort dans leur participation quand ils doivent expliquer aux autres leur continuum.
Ce qui questionne parfois, c'est le lien qui est maintenu entre le parent violent et l'enfant. C'est une façon également de travailler avec ces hommes pour pouvoir avoir un lien qui soit quelque chose de positif pour l'un et pour l'autre.
Bah écoutez, nous, on n'a pas d'a priori là-dessus. Si nous avons une inquiétude par rapport à l'enfant, nous pouvons, dans le cadre de notre travail, faire un signalement ou bien aller contacter des organismes comme SOS Enfants avec les auteurs qui sont en vraie difficulté. Mais la plupart du temps, nous accompagnons des situations qui ne sont pas dans une urgence de placement ou de voilà. Et nous les accompagnons dans la restauration du lien avec leurs enfants. Nous n'avons pas d'a priori non plus, ni d'objectif que les couples se maintiennent. Nous estimons que ce n'est pas notre travail du tout, mais si que le parent soit toujours avec ses enfants ou qu'il soit séparé, nous allons travailler à la réflexion sur le lien, l'impact, la manière dont ils peuvent être pères et être de meilleurs pères, mais on pourrait le faire avec n'importe qui, même des gens qui ne sont pas violents dans le cadre de leur famille. Je veux dire que chacun peut être dans l'amélioration et dans la recherche de comment est-ce qu'on peut être un meilleur partenaire dans son couple et un meilleur parent dans sa famille.
Dernière question concernant les indicateurs et notamment sur les taux de récidive. Là, vous avez présenté des chiffres très éloquents.
Oui, donc il y a une étude très importante en Belgique, 37 000 dossiers qui ont été analysés. Et donc la chercheuse qui a mené cette étude, commanditée par l'État fédéral, a montré que plus la réponse judiciaire était contraignante dans les histoires de violence conjugale, plus le taux de récidive était important. Chez les personnes incarcérées, dans les deux ans, on a un taux de récidive qui est supérieur à 50%. Et dans les mesures alternatives du type de celles que Praxis propose, c'est-à-dire qu'entre des juges ont proposé une mesure alternative, c'est là qu'on obtient les taux de récidive les plus faibles, soit 21% dans les deux ans. Ça peut paraître encore beaucoup, mais c'est du simple au double et donc pour nous c'est encourageant.
Ce qui est inquiétant, c'est que si la peine est très lourde, c'est que les faits sont très graves. Plus les faits sont graves, plus le risque de récidive est élevé. On peut également l'interpréter comme ça.
Oui, on pourrait l'interpréter comme ça, mais l'étude montrait aussi que les profils qu'on nous a transmis étaient aussi lourds et aussi multicriminels, enfin c'est un grand mot, que ceux qui vont en prison. En fait, ce qui va faire la différence, c'est véritablement le magistrat. Il y a des magistrats qui envoient en prison, il y a des magistrats qui réfléchissent à construire des alternatives. Et voilà, bien sûr que quand des hommes sont multirécidivistes, on peut penser que la prison va être la solution. Mais nous avons aussi des hommes qui ont été quelques semaines en prison à Praxis et puis qui viennent après dans la mesure et qui font autant de travail que les autres.
Et le travail est efficace si cet homme est volontaire, en tout cas même s'il est contraint, qu'il y ait à un moment une adhésion au processus.
C'est ça, c'est tout l'enjeu de notre travail, c'est de faire en sorte que quelque part, à un moment, ces hommes ne vivent pas leurs mesures comme une injustice et un fardeau, mais se disent c'est une opportunité de construire quelque chose d'autre et peut-être d'avoir une vie plus agréable et voilà, que ce soit pour eux ou pour leur famille.
pas évident aujourd'hui d'en faire entendre cette voix-là dans cette assemblée. Ici, on a beaucoup parlé des victimes.
Mais je prends toujours beaucoup de précautions parce que je sais qu'une femme sur cinq est victime de violences conjugales, que donc dans cette salle, il doit y en avoir une bonne partie qui a vécu ça. On a entendu des témoignages très touchants d'ex-victimes. Et donc, je prends toujours beaucoup de précautions, mais j'ai vraiment le sentiment qu'en aidant les auteurs, on aide aussi les victimes et leurs familles, et donc que c'est un travail d'utilité sociale.
Anne Jacob, pour ce retour d'expérience auprès des auteurs, cette fois-ci, de violences conjugales et intrafamiliales. Et c'est donc avec ce témoignage que se concluent nos deux émissions consacrées à ce thème et réalisées dans le cadre des journées de formation organisées par l'Association nationale des professionnels et acteurs du sanitaire, social et médico-social pour l'enfance et la famille. Merci de votre attention. À bientôt.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
We are the world. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scope 107.